Été comme hiver, les exaltés du divan pratiquent leur sport favori. Regardez la télé.
Votre guide télévisuel! Les exaltés du divan, épisode
7!
Bonjour tout le monde, bienvenue aux exaltés du divan. Je suis en compagnie
d'Erika.
Et je suis
Simon.
Et nous sommes les exaltés du divan des maniaques de télé. On va vous parler de télé, particulièrement de Netflix.
Ouais.
Ça se peut qu'on ait quelques divulgâcheurs dans l'émission, mais rien de trop grave. Avant qu'on en fasse, on va le dire. Donc, vous pourrez skipper quelques secondes et tout sera rentré dans l'ordre.
Exact. Donc, on commence avec nos hebdos, Black Lightning et Riverdale. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est les finales, en fait.
Ben, probablement, ça, c'était les finales de ces deux saisons-là. Donc, c'est la fin de la saison de Black Lightning et de Riverdale.
Ouais, saison 1, Black Lightning. Saison 2, Riverdale.
Ouais, ouais. C'est ça. Exact. Donc, Black Lightning, finalement, tu sais, j'y ai pris goût à Black Lightning. C'est une série de super-héros assez spéciale, remplie de citations très drôles. Habituellement, on en prend plusieurs en notes, là, on en a juste pris une.
Oui.
Mais, tu sais, elle résume pas mal toutes les citations qu'on a. Dans Black Lightning.
Ouais, donc en fait, le méchant de Black Lightning, c'est un noir albinos et il dit « On a enfin mis KO ce super négro! »
Donc ça résume un peu le genre de citation qu'on va retrouver dans Black Lightning.
Ouais.
Aussi ce qui continue de que...
Mais aussi, ça résume le fait que Black Lightning il est rendu plus faible, il est affaibli.
Ouais, il est affaibli, mais au moins, il y a sa famille qui est là pour lui. Et c'est ça un peu le côté spécial de cette série de super-héros-là, c'est qu'il y a une famille
qui est là-dedans. Exact, et c'est vraiment l'union qui fait la force dans cette famille-là.
Exactement, exactement. Donc, c'est une famille qui est un peu morcelée au début de la série et qui va comme se construire au fil de la série, au fil des super-pouvoirs qu'ils vont découvrir et accumuler. Et on a l'oncle Gambi. Qui est là-dedans aussi, qui est un blanc, hein, malgré tout, mais qui
Italien,
qui est un tailleur de costumes sur mesure.
Ouais, c'est ça, mais avec des armes nucléaires et toutes sortes de trucs vraiment intenses dans son sous-sol.
Ouais.
C'est le Alfred avec la Batcave, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est le Alfred de Black Lightning. Sinon, ben là, on va revoir, c'est quoi son nom déjà? Maintenant, il l'appelle Poison Serpent, ou je sais pas trop, non, Killer Shot.
Ah oui, oui, parce qu'en fait, il y a le petit ami de la cadette, en fait, de Black Lightning, il s'était fait tirer dessus pendant une marche, genre, avec le pasteur et tout ça, pour lutter contre la criminalité à Freeland, et donc, il était rendu paraplégique.
Oui.
Et il s'était fait offrir d'avoir des jambes à nouveau par le vilain Albinos. Et donc, on le revoit, il devient un autre personnage, un ennemi, en fait, avec des genres de super pouvoirs, là.
Ouais, exactement. Les pouvoirs d'un serpent avec un squelette en titane.
Exact.
Donc, c'est très cool, quand même. C'est drôle.
Il y a des grosses dreads.
Ouais, il y a des gros dreads, alors qu'il était comme rasé avant.
Ouais,
donc, en tout cas, c'est quand même assez drôle.
C'est drôle parce que le monde font des commentaires comme, ah, tu es rendu avec des grosses dreads. Puis là, il est là, oui, pendant ma réhabilitation, j'ai eu un traitement spécial pour ma colonne vertébrale et mes cheveux se sont mis à pousser.
Ouais, exactement. Donc, Black Lightning, ça vaut quand même la peine. Hein.
Ouais.
Si vous checkez toutes les séries de marde de super-héros, ben celle-là est pas pire, puis à un certain point, elle est drôle.
Ouais, c'est vraiment dans le même niveau de budget que
Arrow,
Flash et Jessica Jones, ces trucs-là. Là.
Ouais, exactement. Donc c'est ça pour Black Lightning, c'était la finale, donc on va voir saison 2 qu'est-ce que ça nous réserve, mais là toute la famille a leur pouvoir, tout le monde a commencé à les utiliser, ils ont des costumes, donc c'est vraiment Black Lightning begin, mais on va voir qu'est-ce que ça nous réserve pour la suite.
Ça va peut-être être comme les Incroyables, tu sais, la famille avec tous des super pouvoirs, là.
Ouais, exact, il reste juste à la mère à découvrir ses super pouvoirs, mais elle c'est une médecin reconnue internationalement.
Qui étudie le génome du cerveau humain.
Ouais, exactement.
Donc Riverdale, pour vrai, là, à toutes les fois, je me dis, ils peuvent pas aller plus loin et ils dépassent les limites.
Ouais, c'est absolument fascinant comme série. Pour de vrai, ils ont remis Archie sur la map.
Ouais.
Il y avait beaucoup de gens qui étaient des détesteurs de Riverdale parce que ça cadrait pas avec l'histoire originale. Ouais. Et effectivement, ça cadre pas avec l'histoire originale, mais ça l'a su se réinventer.
Ouais, parce qu'il faut pas oublier que dans le fond, Archie, il a toujours évolué. Tu sais, si on passe des années, des années 50-60, il s'adaptait à son public, les jeunes de l'époque, et il a changé au fil des années. Donc, en ce moment, c'est quoi les jeunes de l'époque? Ben, Riverdale exprime ça absolument, je crois.
Ouais, puis c'est vraiment l'apogée des séries d'ados, là, si on veut. Tu sais, c'est Degrassi x 1000, c'est 30 Reasons Why humoristique, c'est comme toutes ces choses-là mis ensemble dans un gros melting pot complètement éclaté où ils peuvent se permettre vraiment n'importe quoi.
Ouais.
Mais il y a une cohérence, puis ça marche bien, et la réalisation, elle est superbe,
oui,
en fait.
Oui, c'est vrai. L'esthétique aussi.
L'esthétique est forte, et c'est des images contrasté, donc il arrive vraiment à faire quelque chose d'intéressant avec ça, même si au début tout présageait pour que ce soit terrible.
Ouais, mais non, tout présageait pas pour que ce soit terrible. Moi, j'avais déjà foi en ça, et en fait je suis étonnée de la popularité de la série. Les jeunes, pour vrai, là, ils capotent là-dessus, là. C'est vraiment, je pense, peut-être une des grosses séries à succès de Netflix.
Ouais, et c'est presque toutes des gens qui ont pas connu Archie.
Ouais.
Tu sais, on parlait justement avec un de nos amis, puis il disait son frère plus jeune écoute Riverdale, puis aime ça, mais il n'y a aucune idée que c'était Archie. T'sais, en fait, il ne sait pas c'est quoi Archie, il ne connaissait pas ça. Donc, ils ont vraiment su se réinventer puis aller chercher une nouvelle génération de fans d'Archie.
Puis, ce n'est pas juste en Amérique, là, c'est vraiment mondial, là, justement. J'ai une amie japonaise qui était venue étudier ici, puis elle est un peu plus jeune, puis elle capote là-dessus, là, puis elle dit que toutes ses amies capotent là-dessus. T'sais, elle les suit sur Instagram, tout. C'est vraiment comme délocalisé comme truc, là. Ça paraît que Netflix, en fait, ils sont rendus vraiment international.
Ouais, donc Riverdale, Black Lightning, ça, on est en pause pour le moment parce que c'était la fin de ces deux saisons-là et ça finit en force.
Fin!
Ouais, Riverdale, ça finit fort, là, tu sais. Ils ont le sens de la tension et du suspense.
C'est théâtral à fond. Mais là, au moins, ils ont fini l'arc du Black Hood.
Ouais, puis ça se finit un peu presque fantastique. Je veux pas, il y en a peut-être qui l'ont pas fini, donc je veux pas trop divulgâcher, mais il y a une scène absolument fantastique où Cheryl Blossom devient comme le chaperon rouge, mais avec un arc à flèche.
Le Red Arrow.
Red Arrow, tu sais, comme on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais là t'es comme, ok, elle est rendue, elle a des, pas des pouvoirs, mais tu sais, elle a un costume, approche dans le Seigneur des Anneaux, là, tu sais, c'est comme, ça. C'est rendu vraiment explosé, puis elle se tient avec des motards, pis là, c'est
wow, tu sais. Parce que, justement, tu sais, maintenant qu'elle sort avec Tony et tout, en fait, la porte s'en trouve sur la saison 3 avec vraiment une grosse place pour les Serpents. Parce que Cheryl, divulgacheur, elle va intégrer les Serpents. Betty, elle a aussi l'autorisation de l'intégrer parce que Jughead, au début, il voulait pas, même si elle avait fait le rite pour rentrer.
La danse du serpent.
Ouais, exact. Fait que là, tu sais, on sent là, qu'il va avoir vraiment comme un gros truc avec... la ville se divise en deux. Et là, pour une fois, Archie, je pense qu'il redescend un peu de sa bulle et qu'il capotait sur les lodges.
Les mafiosos, tout ça. Mais même Véronica, en fait, tu sais, se rebelle un peu contre sa famille. Puis là, on voit qu'est-ce que ça présage. C'est que, tu sais, l'arc avec Chick, c'est fini. L'arc du Black Hood, c'est fini. Là, on entre dans l'arc peut-être plus politique où, ben là, la nouveau maire de la ville a été élue. Le nouveau président de l'école a été élu.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est à suivre. Mais on parlait justement des prisons dans l'épisode précédent.
Exact.
Est-ce que la prison va se construire? C'est ce qu'on va voir.
Et en fait aussi, tu sais, il faut se rappeler dans saison 1 que avant qu'on voit Hiram Lodge, tu sais, c'est surtout sur Hermione Lodge qui avait eu une romance avec le père d'Archie. Et je pense que là, tu sais, tout va tourner un petit peu autour de ça. Moi, c'est mes suppositions, là, dans...
Ouais, ben, Hiram va peut-être se retrouver un peu plus seul, où il va devoir se créer un nouveau groupe, là, parce il se retrouve justement isolé, là, dans sa méchanceté, là, parce
exact.
Que là, Riverdale est prêt à tourner la page sur les vilains, là.
Ouais, fait que beaucoup de potentiel encore, ils vont sûrement dépasser les limites comme jamais.
Ouais, moi, il y avait la rumeur, là, de la série de Sabrina l'apprentie sorcière.
Est-ce qu'il y a plus de trucs là-dessus?
J'ai rien vu sur ça, mais comme de plus en plus, je me dis, ça peut être intégré dans tu sais, Riverdale, Sabrina l'apprentie sorcière. Ça fitterait qu'il y ait une sorcière dans Riverdale, là.
Ouais.
T'sais, comme pas nécessairement tout le temps, mais tu sais, un arc sur ça, ça dépasserait pas les limites. On serait vraiment dans qu'est-ce qu'il faut, tu sais, des extraterrestres peut-être?
c'est ça.
On sait pas, ça peut aller vraiment n'importe où, là.
Ah, c'est tellement fou. Mais, en tout cas, donc, si vous êtes pas dans le coup, si vous écoutez pas ça, pour vrai, c'est...
Vous êtes qui si vous écoutez pas ça? Vous êtes rien.
Si vous êtes rien, pis tu sais, pour vrai, il faut pas se limiter non plus à
mais là, c'est pas le joguette que j'ai connu.
C'est ça, là, ouvrez vos horizons, pis tu sais, pour rester jeune, il faut s'approcher des jeunes, pis il faut les comprendre, fait que c'est vraiment eux, là.
Ouais, exactement. Donc, ben, Riverdale et Black Lightning, on attend la saison 2 et 3, respectivement.
Avec impatience.
Absolument.
Donc, j'enchaîne avec Terrace House, que j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et là, il faut que je vous en reparle encore parce que la partie 2 est sortie. Je me suis claqué ça vraiment vite. Donc, Terrace House, Opening New Doors, ça se passe à Karuizawa, dans le secteur de Nagano. Et ça, c'est un peu plus dans le nord du Japon.
Et on se rappelle qu'il y a eu des Jeux Olympiques, là, d'ailleurs. Oui, des Jeux Olympiques d'hiver.
Exact. En fait, ici, c'est intéressant parce que dans mon cours de japonais, chaque samedi matin, je parle... il y a une fille avec qui je suis, puis on capote vraiment sur Terrace House, puis on s'en parle. Puis en plus, c'est bon parce que ça nous fait pratiquer notre japonais à l'écoute et tout ça. Puis c'est des jeunes, fait que tu sais, on apprend le japonais formel dans nos cours, mais tu sais, on peut aussi comme pratiquer d'autres niveaux. Donc, on parlait de ça, puis là, mon prof, il nous a dit que Karuizawa, en fait, c'est un coin pour les résidents secondaires des riches de Tokyo, et ça explique vraiment beaucoup de choses, en fait, sur la raison pourquoi ils ont choisi ça. Parce que tu sais, ils veulent fuir la chaleur durant l'été. Il faut se dire qu'il fait comme 45 degrés Celsius, super humide, puis t'as l'impression de fondre quand t'es l'été à Tokyo. Et ils font aussi du sport d'hiver, donc un truc de riche, encore une fois. Et juste pour rappeler un peu c'est quoi Terrace House, c'est vraiment une télé-réalité sans but, là. Pour vrai, il n'y a pas de but, puis c'est correct. Puis
c'est comme célibataire et nu.
Non.
Ah, OK.
Non. Okay. Non, parce que il y en a qui... En fait, pour vrai, c'est une plateforme. Parce que sérieusement, il faut comprendre que c'est vraiment un mouvement là-bas, OK? Comme les gens qui passent à Terrace House, ils deviennent littéralement des célébrités, là. Toutes les gens qui voulaient devenir des célébrités, qui sont allés là pour se promouvoir, ils sont devenus. On peut... les gens, ils les suivent. Ça, c'est vraiment un levier, Terrace House. Et les jeunes capotent là-dessus. C'est vraiment un truc que les gens suivent religieusement. Et même, en fait, il y a un dans les commentateurs, il y a un acteur jeune, puis il dit... Moi, tout le monde à l'école suit ça, je suivais ça depuis 2012, tu sais, c'est vraiment un truc quand on me dit que je pouvais être commentateur là-bas, tu sais, c'était vraiment important pour moi, tu sais, Terrace House, c'est comme un élément important dans la vie du monde là-bas. Et en fait, les gens sont tellement fans aussi à l'extérieur du Japon, vu que c'est sur Netflix, ils disent, tu sais, les commentateurs, en fait, ou même les participants, ils disent, c'est fou, là, on se ferait reconnaître partout à l'aéroport, le monde s'en va même, mettons, à Hawaï, voir le magasin de t-shirt de la fille qu'elle a ouvert. En fait, un de nos amis est allé voir...
Ça,
ouais, exactement, tu sais. Donc... il faut aussi expliquer qu'il y a un truc vraiment populaire au Japon, puis c'est le concept des commentateurs. En fait, c'est tout le temps une affaire que tu regardes des gens qui regardent des trucs, et qu'est-ce que tu apprécies là-dedans, c'est leur réaction. Donc, quand tu regardes la télé, mettons une affaire de téléachat, par exemple, ben ça va être un commentateur connu qui va regarder une annonce de téléachat, puis qui va commenter sur qu'est-ce qu'il pense que c'est. Fait que c'est vraiment un concept en soi, et cette réalité-là est vraiment aussi axée sur les commentateurs, puis pour vrai, c'est son crampant, là. Donc, t'es aimes autant, sinon plus, que les personnes qui sont là-bas.
C'est comme les personnages principaux, pratiquement, de la série, parce que c'est ceux qui sont tout le temps là, tu sais.
Exact. Puis t'as comme deux plus vieux, en fait, qui est une actrice qui était vraiment populaire, chanteuse, dans les années comme 80-90 et tout ça, et un autre qui est un peu plus vieux aussi, un acteur, puis il s'appelle, genre, justement, Otto-san puis Oka-san, qui veut dire papa puis maman, tu sais, puis eux sont comme vraiment plus hyper sexualisés, tu sais, parce qu'ils ont connu les années 70-80, vraiment la débauche, puis ils analysent tout, genre, tout comme les aspects sexuels, puis c'est comme bizarre, tu sais, parce que c'est comme le père puis la mère qui parlent de sexe, tu sais, ça rend les plus jeunes foules mal à l'aise, c'est vraiment drôle, puis t'as vraiment, en fait, le hater du truc, sa chaîne YouTube, puis tu sais, qui décortique les personnages, puis lui aussi, il est vraiment crampant. Fait qu'en fait, les commentateurs font aussi beaucoup la série, et c'est vraiment intéressant aussi parce que ça reflète un peu la jeunesse vraiment superficielle, tous des gens qui veulent devenir des acteurs, des mannequins, ouais, des mannequins, des blogueurs, des trucs, tu sais, comme ils veulent tout lancer aussi une ligne de vêtements ou de chapeaux, ou genre peu importe. Fait que c'est quand même vraiment intéressant aussi de voir un peu c'est quoi les aspirations, tu sais, de Star System au Japon. Fait que en tout cas, c'est encore toujours aussi bon et je recommande d'autant plus qu'il y a un personnage qui vient d'arriver dans la deuxième partie de TerraSource Opening New Doors et c'est Senna en fait. Et cette fille-là, elle a fait la première saison de Terrace House, qui a duré 2 ans, est partie, sont allés la rechercher, en fait, pour la deuxième année, et ils l'ont ramenée dans chaque saison de Terrace House pour qu'elle fasse au moins une apparition, parce que les gens capotent sur cette fille-là, et en fait, elle avait trouvé l'amour à Terrace House, ça faisait 3 ans et demi qu'ils étaient ensemble, et elle est plus avec son chum, puis elle revient, en fait, pour retrouver son dernier amour à Terrace House. Et en fait, c'est fou parce que il y a certains commentateurs qui capotent sur elle et quand ils l'ont vu apparaître, tu sais, ils gueulaient comme un fou, ils étaient comme genre Dieu merci, genre ils attendaient ça, tu sais, c'était vraiment crampant. Et cette fille là, ça a vraiment une personnalité aussi comme intéressante là, puis elle a tout le temps un peu les bons mots, elle est provocante mais pas déplacée, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est quelque chose en soi, c'est un phénomène. Et donc, je vous recommande la partie 2 de TerraSource. Ça finit aussi sur un gros punch, mais on peut aussi suivre des suivis sur Instagram. Donc, vous avez plus de petits punchs aussi après. Donc, on attend la partie 3 avec grande impatience.
Ouais, ben ça, je suis pas le plus grand fan de TerraSource, là, mais je vois l'intérêt. Ce qui me passionne de cette série-là, c'est que la réalisation, elle est magnifique.
Ouais.
En fait, c'est de loin... T'as pas l'impression que tu regardes une télé-réalité quand tu regardes ça. T'as plus l'impression que tu regardes une télé-série.
Ouais.
Mais tu sais que c'est comme pas vrai. Je sais pas à quel point, justement, il y a du staging qui se fait.
Il y a aucun staging.
Non, mais tu sais à quel point les réalisateurs guident les participants, puis okay. À quel point ça t'es sûr?
Ouais, ou... c'est sûr. En fait, c'est ça qu'il annonce à toutes les fois au début des émissions. Il y a aucun.
Mais c'est comme Blair Witch Project, genre, ou ils disent ça pour te faire croire que ça l'est pas.
Non,
ou...
non, c'est vraiment aucun. Puis en fait, il y a des règles strictes aussi parce que quand il y a eu la saison à Tokyo, il y avait un peu ces problèmes-là parce que vu que c'est pas des gens enfermés dans un contexte, ils vont à l'école.
Ils continuent de travailler, ils font leurs choses.
T'sais. Ils peuvent aussi, comme c'est des gens qui veulent monter dans le star system, ils vont rencontrer, mettons, des commentateurs dans le cadre de leur travail. Et ça, c'est problématique parce qu'ils sont pas supposés entrer en contact non plus. Fait que je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont décidé de le faire à l'extérieur plus de loin, Tokyo. Là. Ouais, exact. Et non, il y a rien de scénarisé du tout. Et aussi, tu sais, quand on faisait le parallèle, en fond, dans l'épisode 16 avec Ainuri, où il y a des équipes de caméramans qui les suivent constamment, puis ça mettait vraiment de la pression sur les gens. En fait, dans TerraSource, il y a pas de caméraman qui les suivent vraiment, à part quand, mettons, il va avoir comme un rendez-vous galant ou quelque chose. Mais même là, souvent, ils vont être à distance, puis ça va peut-être être plus avec des drones, je crois, qui vont filmer ou des trucs comme ça, pour avoir comme le moins de contact possible, pour que les gens se sentent le plus à l'aise. Donc, les gens, tu sais, les caméras, souvent, ça va être dans l'auto, dans la maison, ces affaires-là, mais c'est pas un humain qui te filme pour que ça soit le plus naturel possible. Les gens, ils ne souffrent pas, tu sais, de cette présence-là, comme on pouvait le voir, mettons, dans Ainuri.
Ouais, pis il y a pas de moment où les gens vont parler à la caméra, tu sais, vraiment seul. Tu sais, comme c'est vraiment différent de ce qu'on est habitué de voir dans le domaine de la télé-réalité, là. Donc, c'est quand même intéressant.
Non, c'est ça. Puis souvent, dans les télé-réalités, ils disent que les gens, ils oublient facilement les caméras. Puis tout le monde dit, ben non, c'est exagéré. Puis en fait, non, c'est vraiment un truc qui a été documenté aussi. Les gens, ils oublient vraiment les caméras. Ils pensent pas tant que ça qu'ils passent à la télévision. Qu'est-ce qui est un peu dommage peut-être avec TerraSource, c'est que vu que c'est comme plus axé sur justement l'idée de trouver l'amour puis d'avoir un couple et tout ça, ils mettent un peu de côté les amitiés. Fait que tu sais, comme justement à la fin de la saison, la partie 2 de la saison de Kairuzawa, on se rend compte qu'il y a une fille qui s'en va, puis elle a vraiment une super bonne amitié. Puis tu sais, ils parlent même d'aller en colocation, genre puis tout ça après. Puis en fait, les Japonais, tu sais, ils font pas vraiment de colocation. C'est quelque chose qui est un peu malaisant. Puis tu sais, tu vois, ils disaient « Ah ouais, vous aviez tellement de belle amitié, vous prenez tout le temps des bains ensemble. » Mais tu sais, comme vraiment, puis on n'a pas vu ça, tu sais. Comme ouais, il en glisse un mot, puis c'est un peu plate là-dessus. Fait que j'espère peut-être qu'ils vont se reprendre aussi, parce que c'est pas juste un truc pour l'amour, là, quelque part, là. Fait que, non, c'est ça, c'est sûr que... Tu sais, il essaie aussi de... Il y a un certain contrôle dans qu'est-ce qu'il envoie. Fait que, tu sais, quand tu disais « c'est-tu scénarisé? » Non, pas du tout.
Mais les scènes qu'ils mettent, exact. Ils vont choisir qu'est-ce qu'ils vont mettre. C'est ça. Donc, c'est ça. Enfin, pour créer des personnages, un peu, si on veut. Là.
Ouais, exact. Puis aussi, tu sais, pour en ostratiser certains, là, tu sais, il y a une fille, justement, tu sais, il la démonise un peu, là, puis tu sais, il fesse dessus, puis même qu'en fait, tu sais, ils ont pas le droit, comme, de se parler directement, mais comme quand, mettons, parce qu'ils ont le droit, en plus, d'écouter les épisodes. Fait que, tu sais, il y a une fille, elle se fait vraiment bâcher dessus par un des commentateurs, puis tu sais, après, elle va aller l'insulter sur sa chaîne YouTube, puis tu sais, ils vont parler ça, c'est quand même drôle, fait que ça évolue, puis c'est comme, en fait, c'est que c'est, la télé-réalité elle s'imprègne vraiment dans la réalité, comme, la frontière est moins...
Mais le fait qu'ils sont pas isolés, mm-hmm. comme on le voit habituellement dans les télé-réalités, ben ça change tout le concept, dans le fond, tu sais, le fait que ouais. tu vas encore travailler, puis que c'est juste quand tu reviens chez vous le soir que t'es vraiment là-dedans, t'es pas 24 heures sur 24 dans la télé-réalité parce qu'il y a pas des équipes de tournage ou tout ça, t'es pas filmé tout le temps, tu sais.
C'est ça. Puis même, tu sais, ils vont aller voir leur famille, des, tu sais.
Ouais, c'est vraiment pas comme le concept d'isolation de la télé-réalité, ouais. c'est vraiment tu sais, c'est presque un genre de documentaire sur la vie des gens mais dans une situation un peu particulière, tu sais.
Exact.
Mais je pense que tu l'as bien dit, un levier pour le star system japonais, je pense que ça ça fait partie de la mission là.
Exact, puis je me dis, tu sais, avec tous les phénomènes comme nous, on est aux États-Unis, genre Kim Kardashian, puis tout ça, tu sais, je trouve ça intéressant de voir c'est quoi un peu leur star system là-bas, parce que tu vois, tu sais, c'est quoi qu'ils recherchent, c'est quoi la culture, tu sais, c'est tellement différent, fait que juste pour ça, ça vaut la peine.
Absolument. De mon côté, j'ai écouté une série qu'on avait, il y a quelques épisodes, on avait regardé plein de bandes annonces de Netflix, qu'est-ce qui allait sortir en mai, tout ça, et il y avait une série là-dedans qui s'appelait The Rain. Donc j'allais regarder The Rain. On se rappellera c'était quoi The Rain. C'est une télésérie danoise de post-apocalyptique dans le fond où la pluie transmet un virus qui tue les gens. ouais, c'est ça. Donc on voit qu'ils savent plus trop quoi aller chercher sur ça. Donc la pluie transmet un virus et nous on va suivre principalement l'histoire d'une fille et son frère qui sont les enfants d'un scientifique. Et au moment où la crise est clos, dans le fond, eux, vu que leur père c'est un scientifique, il est bien placé, puis tout ça, on va apprendre un peu plus tard qu'est-ce que son père avait rapport là-dedans. Mais ils se retrouvent dans un bunker qui est comme prêt pour cette catastrophe-là. Ils peuvent survivre là des années, tout ça. Et ils se retrouvent là. Le père dit, ok, moi, il faut que j'aille aider, il faut que j'aille travailler, dans le fond, parce que c'est un scientifique qui a rapport un peu avec ça. Et dès le début, en fait, leur mère va malheureusement mourir en sortant du bunker puis en étant exposée à la pluie. Donc, ils vont se retrouver les deux seuls. Le gars doit avoir à ce moment-là à peu près 10 à 12 ans et la fille comme 14. Et donc, ils se retrouvent les deux seuls. Et là, il y a un saut dans le temps de 6 ans. Où là, dans le fond, on les voit quand ils sont plus vieux. Donc, la fille, elle a une vingtaine d'années. Le gars, il a 18, quelque chose de même à peu près. Et l'histoire commence à ce moment-là. Dans le fond, c'est vraiment assez classique dans le genre série de survie.
Mm-hmm.
Walking Dead, le truc de vampire que tu regardais. Tu sais, toutes les séries où des groupes vont se former et vont essayer de survivre dans un monde post-apocalyptique. Donc, ça va être des petits groupes. Il va y avoir des traites. Il va y avoir des gens qui sont plus comme, OK, on va survivre, on tue des gens. D'autres qui vont plus collaborer.
Ouais, il y a comme des problèmes avec la moralité.
Avec la moralité. Puis avec, là, ils vont se déplacer dans ce monde-là en essayant de survivre, ils vont rencontrer des groupes. Donc, très classique à ce niveau-là. Je dirais que c'est quand même intéressant, cette partie-là. Donc, comment le groupe se forme, les personnalités, comment ils vont interagir entre eux. Pas pire, assez classique, mais pas pire. Et là, plus ça va dans la série, plus on se rend compte que c'est un truc de conspiration puis de méga corporations qui ont créé un virus mais que eux ont l'antidote mais que là ils ont pas réussi à le faire, fait que là les gens meurent, mais là est-ce que la planète au complet est morte, on le sait pas, est-ce que c'est comme ça devient un peu trop gros et trop comme il y a vraiment des vilains qui ont créé un virus pour prendre le contrôle de la planète, puis t'es comme ah, c'est ben trop gros, puis là finalement tu te rends compte que le frère c'est lui qui porte l'antidote en lui parce que c'est le père qui a créé le virus, puis là, ça devient un peu, tu sais, déjà que c'est tiré par les cheveux, on s'entend, là, mais là, c'est comme un autre niveau une autre couche d'exagération.
Mais c'est quoi qui fait le virus, au juste?
En fait, c'est un truc vraiment comme qui affecte le système nerveux là, de l'humain. Puis comme quand tu touches à cette eau-là, tu meurs.
Ah,
oh,
ok.
En quelques heures, en quelques minutes, là, t'as des genres de convulsions, puis tu meurs, ça l'affecte vraiment, là. C'est vraiment un genre de virus qui se transmet par la peau, par l'eau. Donc c'est ça, tu sais, c'est un petit peu exagéré, emmené, on se perd un peu dans le concept où là, t'es plus dans un groupe de gens qui survivent, mais dans un groupe de gens qui sont des révolutionnaires, qui veulent combattre une corporation qui a créé un virus.
Ouais, parce que dans les trucs de survie, il y a tout le temps une résistance, puis un, tu sais, un peu...
C'est ça, mais là, c'est comme poussé un peu à l'extrême, puis on va revoir toutes les mêmes stéréotypes qu'on retrouve dans tous les trucs de survie. Donc, emmener, ils vont aller dans une place où là, c'est genre des gens full sauvages qui se tuent entre eux. Après ça, ils vont aller dans une place où là, c'est des gens full zen, qui vivent en commune, mais qui ont un secret lourd
Ouais, genre
derrière. C'est ça.
religieux.
Après ça, ils vont découvrir un groupe qui est vraiment militarisé. Donc, c'est un peu trop classique.
Ouais.
Je dirais que la force réside un peu dans l'interaction avec les personnages, mais encore une fois, l'interaction avec les personnages, elle est un peu maigre. Les personnages sont pas très bien définis. Ils ont tous des secrets lourds, mais qui sont vraiment stéréotypés.
Fait que c'est combien sur 10, mettons?
Je dirais pas plus que 4, malheureusement.
Oh!
Donc, c'est assez faible. Puis moi, je me disais, OK, c'est une série danoise. Tu sais, on a vu récemment avec Casa de Papel, des séries un peu de pays qu'on est moins habitué de voir le genre de séries qu'ils produisent. Et c'est rafraîchissant. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui est calqué sur le modèle américain. Donc, on n'a pas cette espèce de touche culturelle qui nous dirait, OK, ben, il y a quelque chose de plus qu'on n'est pas habitué de
Ouais.
voir. Non, c'est une série américaine, mais avec le manque d'expertise américain. T'sais, au pire, les Américains, ils font ce qu'ils font, mais ce qu'ils font, ils le font
Ouais.
excessivement bien. Alors que là, on est comme peut-être dans une petite couche en dessous, là. Il manque quelque chose. Et là, il y a une saison 2 qui a été annoncée, ou du moins qui est en cours. Mais comment la 1 se termine, ça présage rien de bon pour la 2 parce que là on est vraiment rendu dans l'exagération de la méga corporation qui veut retrouver le jeune, qui porte le remède en lui, puis là ça
Ça va être juste une chasse à
une
l'homme,
chasse à l'homme, mais là est-ce qu'ils vont organiser une résistance à partir de ça? Donc ça présage pas grand-chose de très bon, je vous dirais, je ne vous le conseille pas si vous l'avez pas regardé malheureusement,
là. Donc,
The Rain.
la bande-annonce, dans le fond, était assez fidèle.
La bande-annonce était, en fait, la bande-annonce était meilleure que la série parce
OK.
que au moins on savait pas trop où ça allait. Parce que si c'était juste un truc de survie sans explication, qui est comme plus classique, ben au moins tu te dis, ok, ça te permet de travailler sur de la psychologie de personnage, puis sur justement le côté moral et tout ça. Malheureusement, y a pas ça là-dedans.
Donc, on va continuer avec notre série de couple. C'est The Toys That Made Us, ou en fait les jouets de notre enfance,
C'est partie 2.
partie 2. C'est une série de 4 épisodes qui vient tout juste d'être lancée. Donc, les 4 sujets qui ont été choisis pour les épisodes, c'est Lego, Transformers, Hello Kitty et Star Trek.
Absolument. Moi, j'avais adoré les premiers 4 épisodes.
Donc, en fait, le mal-aimé un peu de la science-fiction, c'est tout le temps Star Trek, t'sais, la fameuse guerre Star Trek,
Star
Star
Wars.
Wars, puis en plus l'affaire c'est Star Trek qui était là avant, ils ont tout fait avant, puis t'sais, Star Wars s'est pointé là comme un vulgaire cowboy, puis ils ont tout raflé, t'sais, fait comme l'affaire aussi c'est que t'sais, Star Trek premièrement, c'est un peu plus raffiné dans la science-fiction, dans le sens qu'il y a plus d'explications, l'univers est un peu plus complexe.
Ben c'est qu'au sens large, la plupart des gens qui s'intéressent à ça vont dire que Star Wars n'est pas de la science-fiction, ou du moins de la science-fiction fantastique, ou du fantastique futuriste. Mais Star Trek, c'est vraiment de la sci-fi pour les geeks de science. Puis tu sais,
Ouais.
les technologies sont comme expliquées. Puis ça, dans Star Wars, c'est jamais expliqué ces choses-là. Donc
Non,
le
c'est
côté
ça.
sci-fi est moins là,
Parce
là.
qu'en fait, Star Wars, tu sais, c'est vraiment un conte chevaleresque qui m'expose dans l'espace, tu sais,
C'est
à quelque
ça,
part, là.
exactement,
Donc,
exactement.
fait que, tu sais, il y a toujours eu un peu le conflit entre, tu sais, toi, t'es-tu plus Star Trek, t'es-tu plus Star Wars, c'est comme un peu Harry Potter versus Seigneur des Anneaux. Et en fait, moi, j'ai comme un peu compris aussi à travers l'épisode sur les jouets, parce qu'en fait, tu sais, les jouets, c'est un des vecteurs les plus importants
De ces
de ces
franchises-là, là.
franchises-là. Et là, tu comprends aussi pourquoi est-ce que les Trekkies sont si pointilleux puis sont si comme mal aimés un peu à quelque part. Tu sais, les fabricants de jouets, ils sont juste carrément foutus d'eux.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment drôle de voir comment est-ce que les jouets de Star Trek ont jamais réussi à faire ce qu'ils devaient faire, tu sais. Puis comme à toutes les époques, il y a eu des problèmes, puis à toutes les nouvelles générations de Star Trek, il y a eu des nouveaux fabricants, des nouvelles associations, et à chaque fois, pratiquement, la cible a été ratée, mais de
Exact.
loin, là. Puis tu sais, vraiment l'époque de, on prend n'importe quel jouet, on met un logo Star Trek dessus, on fait des figurines, mais ils sont pas fidèles à l'émission. Donc tu sais, il y a vraiment quelque chose qui est comme triste un peu. Ils ont jamais été
Ouais.
satisfaits par des jouets, là.
Exact, tu sais, puis quand même les collectionneurs, puis tout ça, tu sais, dans le fond, quand tu te ramasses, mais tu sais, t'écoutes la série Star Trek, t'aimes ça, puis là, dans le fond, tu vas acheter un jouet, puis là, tu sais, c'est une figurine qui a le corps de la planète des singes, la tête d'un lézard, un habit genre d'un Klingon, puis là, tu t'attends que c'est un personnage, mais dans le fond, non, tu sais, c'est pas le personnage que tu regardais à la télé, c'est pas le personnage qui est dans les livres, c'est juste vraiment n'importe quoi pour essayer de faire une passe de cash sur ton dos. Fait que tu sais, c'est frustrant, puis en fait, c'est drôle parce que tu vois, tout au long de l'épisode, on suit comme des fans, puis ils sont tout le temps super déçus, ils sont tout le temps comme vraiment, ils se sentent trahis, tu sais, ils se sentent pas respectés, puis ils sont là... T'sais, à toutes les fois que les gens sortent des trucs, c'est n'importe quoi. Puis, tu sais, en fait, même, il y en a qui sont comme, ouais, tu sais, je veux même pas parler, genre, de tels jouets qui ont sorti parce que
C'est trop
c'est ça,
aberrant,
là.
puis que... Non, c'est ça, c'est mal aimé, mais vraiment intéressant. Je conseille quand même d'écouter celui sur Star Wars avant d'écouter celui sur Star
Ouais.
Trek, parce qu'il y a plein de parallèles entre les deux, puis ils vont faire pas mal de comparaisons justement avec les jouets Star Wars par rapport aux jouets de Star
Ouais, parce
Trek.
que, tu sais, chronologiquement aussi, il était en compétition, donc, tu sais, si ça... En fait, ce qui a malmené Star Trek, c'est Star Wars, tu sais, parce que c'était comme trop un... Les films, ils étaient tellement différents de l'univers de Star Trek, puis les gens, ils s'attendaient à ça, ils essayaient de retrouver des éléments de Star Wars là-dedans, puis, tu sais, c'était comme un peu plus vieux, en fait, tu sais. Star Wars, tu sais, ça plaît vraiment à la famille, là, de A à Z, et pas nécessairement à des gens qui ont ben, qui ont comme un intérêt envers des choses comme scientifiques ou de la science-fiction ou tout qui a rapport avec
Ben, c'est très geek,
l'aérospatiale.
là,
Ouais.
t'sais, très geek, là, au sens, là, scientifique du terme, pratiquement, là.
Fait que, non, très, c'était un bon épisode.
Ouais, sinon, il y avait l'épisode sur les Transformers. Transformers que moi, j'ai jamais vraiment connu ça non plus,
Moi non
j'imagine toi
plus.
non plus, t'sais, comme j'ai vu quelques films de Michael Bay, mais t'sais, j'étais pas tant fan non plus, je les ai même pas toutes vues, puis comme j'ai jamais vraiment regardé le dessin animé, j'ai eu même pas de Transformers vraiment chez nous.
Mais on était comme un peu en deux, tu sais, nous,
Ouais, ben c'est ça, exact. On était trop
comme...
jeunes ou trop vieux pour tout dépendre des moments où
Ouais.
ça a été à la mode. Par contre, cet épisode-là, il était vraiment, vraiment intéressant. Comment ces jouets-là ont été créés, comment est-ce que tu pars de G.I. Joe qui est vendu au Japon pour devenir des robots et là pour créer des Diabots qui est une sorte de jeu de jouets japonais qui est ramené par la suite aux États-Unis pour devenir un phénomène qui est
Ouais.
Transformer. Super intéressant, beaucoup d'évolution dans ce jouet-là aussi,
Ouais.
donc beaucoup de changements, mais tu sais, comme il y a eu beaucoup d'adaptations qui ont dû être faites, puis c'est un travail qui a été réalisé par plusieurs industries différentes aussi en même temps.
Ouais, c'est sûrement, en fait, tu sais, le jouet, en tout cas, dans tout ce qu'on a vu, qu'il y a le plus de collaboration, tu sais, entre États-Unis, Japon, tu vois qu'il y a des ramifications, c'est quand même complexe, puis les concurrents aussi là-dedans, c'était vraiment comme un degré de difficulté de plus.
Ouais, et ça a été un phénomène assez court aussi pour à quel point ça a marqué les générations. Tu sais, dans le fond, ça a duré même pas 10 ans, là, toute cette mode des Transformers-là. Là, c'est revenu une deuxième génération avec les films et tout ça, mais ça a été très rapide, très explosif, et ça a marqué des générations complètes. Pour plusieurs personnes, c'est les jouets les plus marquants de leur enfance, là.
Exact.
Donc, ouais, assez intéressant aussi.
Et aussi, en fait, il y avait l'épisode sur les Lego.
Les Lego, ouais, moi je suis un fan fini de Lego. J'ai passé ma jeunesse à jouer au Lego.
Ouais.
Très bon épisode aussi, hein.
Ouais, je savais pas, en fait, que ça venait du Danemark.
Non, c'est ça, c'est un truc donc scandinave, du Danemark, et vraiment, même encore à ce jour, je pense une de leurs plus grosses usines et leur siège social est dans une ville qui, dans les années 60, comptait à peu près 200 habitants.
Ouais.
Et maintenant, en fait, c'est la ville Lego. Tout le monde qui est là
Travaille
travaille de
chez
près ou
Lego,
de
hein?
loin avec Lego. C'est cool qu'il a gardé un peu ses racines-là. Puis on le voit un peu tout au long aussi, comment ils veulent conserver des valeurs. Puis tu sais, ils parlent du Lego système
Ouais.
tout le long. C'est comme, tu vois qu'il y a une espèce de côté conservateur chez Lego. qui des fois leur a nuit et des fois leur a permis justement de traverser les époques, tu sais.
Exact, puis traverser les époques, c'est absolument le terme, parce qu'en fait, le Lego, tu sais, c'est un jouet qui est intemporel, qui est comme pas jetable, puis tu sais, c'est que, comme ils disent, tu peux assembler, tu peux jouer avec des pièces des années 50, puis c'est les mêmes pièces, puis ils s'emboîtent avec les nouvelles pièces, puis il y a cette idée là de pas justement d'une pas nécessairement une mode mais tu sais de perdurer puis que tu sais pour les parents justement tu sais qui doivent toujours acheter des jouets puis tout le temps de la nouveauté puis tout ça tu sais ça devient agressant puis même pour en fait les distributeurs de jeux tu sais comme dès que ça pogne plus faut tout jeter aux poubelles puis là dans le fond eux ils développent un truc qui traverse le temps vraiment puis qui s'adapte à tellement de choses
absolument puis on a l'impression que Lego aussi c'est une compagnie qui a toujours bien été mais tu vois là-dedans qu'ils ont eu plusieurs périodes creuses où ils ont dû se réinventer puis essayer des choses. Puis c'est intéressant de voir comment les grosses compagnies comme ça, justement, peuvent trouver une nouvelle identité. Ouais. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc, puis d'ailleurs, on le voit avec Lego, le retour aux sources. Ouais. C'est ce qui a fait qu'ils sont encore là aujourd'hui.
Exact. Puis c'est intéressant aussi parce que c'est une compagnie familiale, tu sais, trois générations.
Ah, puis les trois présidents, il y a eu le grand-père, le père, le fils. Là, maintenant, c'est plus cette génération-là. Ben, c'est plus cette famille-là, mais c'est quand même trois générations.
Mais ça appartient encore à la famille, par exemple.
Absolument. Donc, très, très cool. Là. Moi, les Legos, en plus, je suis un fan de ça. Donc, c'était vraiment intéressant.
Ouais, puis en fait aussi, il y avait un élément intéressant, c'est que c'était la première fois aussi dans l'histoire du jouet que on faisait breveter un concept, t'sais. Il y a vraiment eu de la recherche, du développement sur comment fabriquer les pièces et tout ça. Fait que c'est intéressant de voir ça.
Oui, absolument. C'est d'ailleurs ce qui a fait que Lego a dominé l'industrie du jeu de construction pendant autant d'années. Puis là, au tournant des années 90, le brevet n'était plus... était expiré.
Ouais.
Et tu sais, vous connaissez tous sûrement Megablock, qui est une grosse compagnie américaine qui a repris le concept, mais des compagnies qui ont comme volé la part de marché de Lego.
Exact.
Il y en a comme une dizaine là, dans le monde qui ont, au moment où les brevets ont expiré, qui ont commencé à faire ça et même ils vendaient leurs jouets en disant compatible avec les Lego et souvent c'était moins cher que les Lego. Donc ça a été un dur coup aussi pour Lego pour comment ils allaient se renouveler là-dedans. Là.
Ouais, donc c'est aussi un épisode sur comme la gestion d'entreprise, c'est bon.
Oui, absolument, absolument.
Ensuite, le dernier épisode, c'est sur Hello Kitty.
Ouais, Hello Kitty, en fait, qui était vraiment l'épisode que moi, j'avais le moins le goût de regarder. J'étais comme, ah, tu sais, Hello Kitty, ça m'intéresse un peu moins.
Ouais, mais il y avait Paris Hilton dedans.
Il y avait Paris Hilton dedans, c'était déjà un gros plus. Et en fait, c'est peut-être l'épisode que j'ai le plus aimé de la saison. Par contre, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas un épisode sur les jouets.
Non.
À un certain point, c'est un épisode sur une marque.
Ouais.
Oui, tous les autres épisodes vont aller au côté branding puis parler de ça, mais celui-là, c'est que des jouets Hello Kitty, il y en a pas là. Tu sais, il y a mille affaires Hello Kitty. Il y a des avions Hello Kitty, ouais. des faux micro-ondes Hello Kitty, des petits porte-monnaies. Il y a de tout, mais comme c'est pas un épisode sur le jouet en tant que tel, mais vraiment sur comment créer une marque qui va perdurer pendant des années et des années là.
Ouais, puis en fait c'est vraiment important de comprendre le concept, tu sais, de kawaii, comme qu'est-ce qui est un peu, ça se traduit par qu'est-ce qui est mignon, mais pour vrai le kawaii ça a une autre profondeur aussi parce que.
Puis en fait c'est dans cet épisode là c'est la meilleure définition de kawaii que j'ai vu pour quelqu'un qui a aucune idée c'est quoi, il te l'explique en une minute, puis là t'es comme ah ouais ok c'est ça kawaii, tu sais.
Exact, parce que tu sais comme les jouets on dit ah des jouets c'est pour les enfants puis tout ça, puis tu sais tout qu'est-ce qui est cute. C'est supposé être comme pour les plus jeunes ou les filles. Puis en fait, il y a eu un tournant dans la culture japonaise où les adultes, ils ont pu dire « Ah oui, t'sais, on s'approprie t'sais, qu'est-ce qui est kawaii. » Ouais, donc, puis en fait, c'est flagrant. On voit ça dans tout t'sais, là-bas. Puis mettons le jeu de Kirby là, t'sais, qui était sorti. T'avais la version qui sortait aux États-Unis qui était un petit Kirby qui était comme vraiment avec les sourcils
Il y avait les sourcils français. Il était comme chevalier un peu.
Ouais, ce petit bas est dans une position vraiment... T'sais, comme de combat, puis là t'as le même jeu qui sort au Japon, puis il est tellement cute, puis t'sais, sa petite face, puis t'sais, comme c'est, les gens ils recherchent ça, là, c'est vraiment le cute, tout doit être cute, là-bas les cônes sont cute, là, la construction, il y a des mascottes partout, fait que t'sais, c'est vraiment un Hello Kitty, ça représente vraiment une grosse part de leur identité, et en fait, surtout que Hello Kitty, ce qui est fucké, c'est que ça sort de nulle part. sais, c'est pas une série télé, c'est pas un manga, c'est pas un... c'est juste un personnage qu'ils ont inventé de même.
Comme... Ouais, pis tu sais, comme on dit, il y a pas de jouets, tu sais, oui, il y a des figurines, il y a des affaires Hello Kitty, mais à la base, tu sais, c'est comme, c'est juste vraiment une marque.
Exact.
Que tu mets un logo sur n'importe quoi, pis comme, ça va se vendre, là, tu sais.
C'est vrai, parce qu'à la base, le gars, en fait, c'était, il voulait, parce qu'il y a la culture du cadeau au Japon, pis tu sais, c'est tout le temps normal, tu sais, t'arrives quelque part, tu donnes un cadeau, peu importe, à tes collègues.
Petit ou... cadeau, grand sourire.
Ouais, c'est ça, c'est son slogan. Et en fait, au début, il vendait des genres de petites pantoufles, pis il a décidé de foutre une petite fraise dessus. Des pantoufles vraiment normales, puis le monde, tu sais, il capotait plus là-dessus, puis s'est rendu compte, ah oui, t'es en rendant les choses cute.
Petit cadeau, grand sourire.
Fait que là, c'est, ça a comme explosé dans cette direction-là. Fait que tu vois que Hello Kitty, c'est pas à la base vraiment un jouet, c'est des petits cadeaux.
Ben en fait, c'est pas, de tous les 8 épisodes, c'est la seule entreprise qui n'est pas une entreprise de jouets. Ouais. En fait, ce ne sont pas des fabricants de jouets, ce ne sont pas des concepteurs de jouets, c'est une marque qui a été développée. À la limite, ils ont fait des dessins animés. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait avec Hello Kitty puis toute leur marque, c'est Sanrio, la compagnie.
Ouais.
Et eux, ils ont créé une panoplie de personnages, Hello Kitty étant un de ces personnages-là, mais ils en ont au-dessus d'une centaine.
Exact. Puis tu sais, en fait, peut-être que vous connaissez Gudetama, qui est l'œuf paresseux. C'est un jaune d'œuf qui est tout le temps vraiment veg, puis comme... Ah, il fait froid, puis ça brille sa petite tranche de bacon. Tu sais, il est juste cute, puis il sert absolument à rien. Tu sais, c'est juste des images comme ça, que ça a parti sur pour lancer leur marque de produits dérivés, puis ça a juste à donner que c'était spécial. Tu sais, mais non, c'est Sanrio. En fait, il se spécialise dans ouais, c'est pas des
la création de personnages pratiquement, mais comme c'est ça, c'est pas une compagnie de jouets. Et d'ailleurs, le côté jouet est vraiment pas abordé dans cette émission là. Ils vont vraiment traiter de beaucoup des produits dérivés et de comment est-ce que tu fais perdurer une marque dans l'histoire et comment est-ce que, malgré toi, cette marque-là, les courants sociaux vont se l'approprier.
Ouais, exact.
C'est une marque, souvent, on va remarquer que les marques, ils vont payer des influenceurs pour propager la marque. C'est mais ça. Avec Hello Kitty, les vedettes et tout ça s'approprient cette marque-là sans même qu'il y ait de demande qui est faite.
Ils sont pas payés, ils ont pas de contrat, ils font juste capoter là-dessus, tu sais, comme, mettons, Rihanna qui avait un gros collier de diamants d'Hello Kitty dans le cou, mais tu sais, c'est pas que là, le monde disait, ah ouais, elle a dû signer un contrat. Non. C'est juste qu'elle veut, le monde aime ça, tu sais. Puis aussi, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a une grosse polémique sur le fait que Hello Kitty, elle a pas de bouche à la base. Et donc, pour ça, c'est intéressant de regarder l'émission là-dessus. Puis quand ils font la série animée, ben tu sais, elle a pas le choix de parler. Fait que il y a comme vraiment quelque chose qui se passe par rapport au fait qu'elle a pas de bouche.
Ouais, non, c'est intéressant. Puis tu vois qu'Hello Kitty, c'est un des personnages de Sanrio. Et eux, chaque année, ils font leur palmarès, en fond, du personnage qui a été le plus populaire à chaque année. Et à plein d'années, dans le fond, ce n'était pas Hello Kitty qui était là. Ouais. Donc, ils ont réussi comme à faire survivre la marque Hello Kitty dans certains moments à l'aide de d'autres personnages, dans le fond, qui sont tout aussi kawaii qu'Hello Kitty.
Ouais.
Mais Hello Kitty est quand même, au final, demeuré et a été... Il y a eu un certain côté de chance aussi dans comment les mentalités ont évolué au Japon et comment, justement, cette marque-là, les gens se la sont appropriées. C'est vraiment une fierté nationale.
Ouais. Puis aussi, c'est ça, c'est intéressant parce que, mettons, si on regarde des bandes dessinées comme, tu sais, DC, Marvel, tout ça, ou même Archie, comme on parlait, en fait, les univers, à un moment donné, viennent à se côtoyer, tu sais. Mais là-dedans, les personnages de Sanrio, même si c'est des personnages de Sanrio, ne vont jamais entrer en contact, sauf dans des événements vraiment particuliers. Donc, ils se connaissent pas, ils font rien ensemble. Fait que c'est aussi spécial, tu sais, parce que c'est comme des marques en compétition, tu sais, à quelque part.
Ouais, puis ils pourraient tous fitter ensemble, en plus, tu sais, sauf que non, c'est pas ça. Fait qu'on voit que Sanrio a pas fini parce que Gudetama, selon moi, est un personnage qui prend énormément de place, qui devient maintenant, qui est même rendu ici, là, en Amérique, qui commence à être populaire, mais là-bas, au Japon, Gudetama, c'est une vedette, là, il est partout, il est... Dans tous les produits que vous pouvez imaginer, il y a un produit Gudetama pour ça.
Ouais, puis vous pouvez même le suivre sur Twitter, en fait, parce qu'à chaque jour, il y a une nouvelle image de Gudetama qui fait quelque chose. Puis t'es comme, à toutes les fois, tu te lèves le matin, puis t'es comme, oh, ouais, j'ai envie de voir qu'est-ce que Gudetama va faire. Puis, fait que non, c'est vraiment intéressant. Et on vous recommande vraiment cet épisode-là.
Ouais, ben en fait, les 4 nouveaux épisodes, selon moi, livrent la marchandise. Série de 8 épisodes, hein, c'est un peu... Je sais pas si j'en voudrais plus parce que je veux pas que la qualité baisse, mais j'en prendrais sur d'autres affaires parce que c'est c'est vraiment bien fait, je trouve. C'est pas trop léger, c'est pas trop lourd, c'est un mix d'humour, puis de ils jouent beaucoup sur les codes là-dedans et ils vont vraiment retracer l'histoire des jouets. Et tu vois que c'est une méga industrie, hein. Quand t'es un enfant, tu te rends pas compte, un jouet, c'est fait pour le plaisir, puis tout ça. Quand tu les produis, il y a des grosses games qui se jouent, puis ça joue serré, puis ça joue pas nécessairement tout le temps légal.
Non, il y a pas juste des gentils là-dedans.
Non, il y a beaucoup de méchants, en fait.
Donc, c'était tout pour cette semaine.
Ben, c'est ça. Donc, on se revoit la semaine prochaine.
Bye bye!
Bye!